Je connais même quand il n'y a pas la lune, je peux marcher en tâtonnant, je connais les chemins, je me sens bien. Et Dieu me dit, tu vas quitter et tu vas partir. Et je n'ai même pas posé la question, je vais où? Je te le dirai en cours de chemin. Vous vous imaginez ce que ça pouvait être quand même comme épreuve, que c'était éprouvant pour cet homme, pour cette famille. Il avait une épouse, il avait des biens, et on voit plus tard qu'il avait des biens, il avait des bergers. Je me suis demandé, mais le lendemain, comment il a fait? Comment il a dit, je me dirige vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, vers le sud? Est-ce qu'il a mis les animaux devant et les premiers animaux qui sont dirigés, il a dit, je vais suivre? On ne sait pas comment il a fait. La Bible ne le dit pas. Mais regardez combien Dieu est bon, combien il est dans l'équilibre. Au commandement, il ajoute, avant même qu'Abraham s'engage, il ajoute une promesse. Là où il pouvait s'interroger, se disant, mais est-ce que je ne vais pas trouver des gens qui vont me tuer pour me prendre mes troupeaux, etc. Dieu promet de suite, avec l'ordre, la promesse. Je ferai de toi une grande nation. Déjà la réponse. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction, etc. Donc, ce premier principe que l'on peut tirer de ce verset, c'est que quand Dieu donne un commandement, quand Dieu me commande, quand il vous commande de faire quelque chose, avant même que vous vous engagiez, lui s'est déjà engagé. Alléluia! Il s'engage avant que nous engagions nous. Donc, dans ce dispositif, il prend le devant. Je te demande de faire ça. Et déjà, je te dis, je m'engage. Je prendrai soin de toi. Je ferai ceci. Voici ma part. Et nous savons, lui, le Seigneur, il est merveilleux. Mais nous savons, nous, que sa part est de loin, infiniment plus grande, plus importante que notre part à nous. Donc, quand le Seigneur vous demande quelque chose, n'ayez pas peur. Il a déjà pris ses dispositions. Comment il va faire pour vous aider? Non seulement il s'engage, je vais te bénir, je vais t'aider, et plus tard aussi, je te récompenserai. Je vais juste prendre un cas. Je pense que nous, comme je vous ai dit dans un chapitre de plus tard, nous rentrerons un peu plus dans le vif du sujet, mais le Seigneur qui dit aux pécheurs, repentez-vous, repentez-vous. Avant même que le pécheur entreprenne quoi que ce soit, le Seigneur s'est engagé. Est-ce que nous ne lisons pas dans la Bible? Il promet, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Alléluia! Il s'engage d'avance. Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Je vous attirerai. Je ne vous dis pas, débrouillez-vous tout seul. C'est vous le pécheur. Moi, je suis saint. Non, je serai. Je viendrai à ton aide. Je t'attirerai vers moi. Et si tu viens, je ne vais pas mettre sur la balance le crime que tu auras commis. Aujourd'hui, si un certain Hitler Adolf, excusez-moi de prendre les extrêmes, était encore respirer la vie aujourd'hui et venait se prosterner devant Dieu disant, je reconnais l'immensité de mon péché. Je te demande pardon. Le Seigneur n'est pas soupesé, puisqu'il a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Vous qui êtes ici, à vous, je ne peux pas vous dire le prochain chapitre la fois prochaine. Non. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Le Seigneur, c'est lui qui est en train de vous parler. Moi, je ne peux pas atteindre votre cœur. Quand nous avons chanté, quand nous avons prié ensemble, vous avez senti quelque chose dans votre cœur. Vous avez senti un bouleversement, vous avez senti de la chaleur dans votre cœur. Vous êtes dit, il y a quelque chose qui se passe ici, que je ne connais pas, je suis étranger à ces choses. Aujourd'hui, la Bible nous dit ceci, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible, c'est le côté commandement, mais en même temps, la promesse, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et encore, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce n'est pas demain, c'est à l'instant. Invoquez le Seigneur dès maintenant. Seigneur, pardonne-moi mon péché. Je vais naître de nouveau moi aussi. Je vais faire corps avec ce que je sens ici. Cette vie que je ressens ici. Donc, nous garderons en tête, surtout dans nos cœurs, ce premier principe. Toujours ce que le Seigneur me commandera, il aura pris ce dispositif, il se sera engagé d'avance, avant même que je m'engage. Alléluia. Amen. Vous vous réjouissez de ça? Béni soit le Seigneur. Nous allons voir ensemble le deuxième principe. Ce que dans le jargon habituel on appelle les modalités, c'est quand donc ça va se faire? Comment ça va se faire? Où ça va se passer? Les modalités de l'accomplissement de ces promesses, qui en tient les rênes, comment ça se passe? Nous allons voir ensemble à propos du quand. Quand il les appelle, ils ont déjà un certain âge, voire un âge certain. Puisque l'homme, il est âgé de 75 ans, la dame est âgée de 65 ans. Ils ont 10 années de différence. Ils ont déjà un certain âge. Et on les comprend quand ils s'impatientent. Ils expriment leur impatience. Je me mets à leur place et je les comprends parfaitement. Même si je ne légitime pas cette impatience, ils auraient dû être patients, mais je les comprends bien. Nous allons lire ensemble comment ça s'est passé. Genèse 15. On les voit s'impatienter. Plus loin au chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » C'est chapitre 15, premier verset. « Ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliézer de Damas. » Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. » Entre parenthèses, il n'avait pas quand même oublié que Dieu avait parlé. Mais on le voit quand même s'interroger. « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Il eut confiance. Mais plus loin, regardez le chapitre 16. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Voilà, ils ont déjà attendu 10 années. Vous comprenez quand même. Il avait 75 ans, maintenant il a 85. Elle en a 75. Alors voilà, on va trouver une solution. On va un peu forcer la main à l'Éternel quelque part. Il alla vers Agar et devint enceinte. Elle se vit enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Voyez là, entre moi et toi. Il parle à son mari, elle parle à son mari, comme c'était son mari qui avait pris l'initiative. Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. On arrête ici cette histoire, mais pour vous dire que voilà, à vouloir, ne pas attendre, patienter, forcer un peu la main au Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Un immense problème. Ce problème, vous savez, il n'est pas fini. Il est actuel, ce problème. Vous le savez très bien. Et les conséquences de ce problème nous rejaillissent et déçus jusqu'ici. Je ne détaille pas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ils ont voulu maîtriser quelque part le camp. Ça n'a pas marché. Qui détient la souveraineté sur ces modalités? Quand ça va se passer? Où ça va se passer? Comment ça va se passer? C'est l'Éternel. C'est celui qui fait la promesse. Nous garderons donc à l'esprit ceci. Soumettons-nous à Dieu. Ne voulons pas lui arracher nos chiens, ne veillons pas, ne cherchons pas à lui arracher le quand, le comment. Je sais que c'est dur. Vous avez prié pour votre conjoint. Ça fait mal quand même, je le comprends. Vous savez que s'il mourait aujourd'hui sans se convertir, vous savez où il irait. Et je vous comprends bien que c'est dur. On a prié pour nos enfants, on a prié pour les nôtres et pour nos prochains tout simplement. Il y a des milliards d'êtres humains, même ceux que nous ne connaissons pas. Il m'arrive de me faire un film, et si le Seigneur, si les choses se passaient maintenant, ces gens-là, je les vois, c'est terrible de voir ces milliards crier dans l'enfer. Mais ce n'est pas à nous de vouloir maîtriser le quand, le où, le comment. Nous avons prié, nous avons espéré dans la promesse de celui qui a dit « Demandez et il vous sera donné », celui qui nous a promis de nous exaucer. Vous avez prié pour votre cher conjoint, ayez confiance dans le Seigneur. Quand ça va se passer? Un jour, vous allez dire, mais je suis sur mon lit de mort. On m'a dit que je vais mourir, que j'ai la semaine. Je vais mourir. Et il n'est pas converti. Alors ça va se passer comment? Est-ce que vous savez que nos prières ne meurent pas avec nous? Vous croyez que si moi je meurs, Dieu va effacer. Les prières que j'ai faites pour moi, c'est une autre histoire. Vous comprenez? Tout se joue maintenant dans ma vie. Si je passe, c'est autre chose. Mais pour les autres, vous croyez que tant qu'ils respireront la vie, le Seigneur va oublier votre prière parce que vous disparaissez de cette terre? Le Seigneur, il a une mémoire divine, infinie. Il peut se rappeler toutes les prières, même quand vous les avez oubliées. Moi, j'ai réalisé ça, où tout d'un coup, j'ai prié, et il se passe quelque chose. Ah, mais je l'avais demandé. Je l'avais demandé. Je viens de vivre une expérience au travail. Aussi, la souveraineté de Dieu nous dépasse. Je ne dirai pas le nom de qui, puisque je ne lui ai pas demandé l'autorisation. Mais elle était là. Je l'ai vue à cet moment vraiment déprimée, vraiment, elle était très mal. Des semaines, je la regardais, elle avait un visage vraiment défait. Je lui dis, mais ma collègue, qu'est-ce qui ne marche pas? Vous savez, ça fait beaucoup de temps qu'on cherche à avoir un enfant. Ça ne marche pas. Et ça me fait mal. Et elle me dit, nous sommes en train de... Vous voyez, je prends des congés, nous sommes en train d'essayer d'utiliser la procréation assistée pour qu'on puisse voir comment ça marche. Mais vraiment, ça ne va pas. Je suis découragé. Alors je me suis dit, mais va savoir, c'est venu spontanément dans mon cœur, écoute, est-ce que, bon, je la connaissais bien, elle n'était pas croyante, elle était au condé de ce qui manquait, qui n'est beaucoup. Si bien qu'un jour je suis sorti de mes cons, je me suis un peu énervé, mais je lui ai demandé pardon, et j'ai demandé pardon au Seigneur. Mais ce jour, je lui ai dit, est-ce qu'au moins tu crois que Dieu existe? Oui, je crois que Dieu existe. Eh bien écoute, moi je m'arrête là, je vais prier pour toi, pour que tu aies un enfant, ce bébé qui te désire tant. Ouais. Et mais je vous assure, j'ai prié pour elle. Seigneur, elle peut en profiter pour savoir que tu existes, Seigneur. Quel est un enfant? Qu'elle conçoive un enfant? Elle a continué, elle, à prendre des rendez-vous. Moi, je priais pour qu'elle ait un bébé sans ces rendez-vous. La semaine passée, je la vois qui entre, bien habillée, illuminée, bien épanouie. Nous étions trois dans nos bureaux et qui nous dit, avec un sourire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah oui? J'attends un bébé. Ah, tu attends un bébé, oui? Alors, ça a marché, donc, écoutez bien, on était en train de faire ces choses, on n'a même pas attendu qu'on les expérimente. J'ai conçu tout naturellement. Alléluia! Donc, moi, j'ai dit, Seigneur, ma prière maintenant, Seigneur, que cette expérience, grande quand même, belle, qui bouleverse positivement sa vie, que ça lui serve de leçon. Qu'elle sache que non seulement tu existes, mais que tu veux la sauver. Alléluia. Bien. Voilà. Donc, le Seigneur maîtrise le quand, le comment ça va se passer, c'est quand. Ayons confiance en Dieu. Le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur nous est favorable. Le Seigneur se tient à notre côté. Aujourd'hui, j'ai commencé par dire à celui qui ne s'est pas encore repenti, repentez-vous. Si vous êtes pécheur, vous le savez. Si vous pensez que Dieu tient le martinet pour vous taper dessus, alors là, on vous a mal prêché, on vous a prêché notre évangile. L'évangile, c'est que Dieu est amour, le Seigneur vous aime et il veut vous sauver. Il est de votre côté, il vous est favorable, il vous aime au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc, pour le camp, avec qui vous avez vu qu'on a essayé avec Agar, c'est pas avec Ismaël. Elle a enfanté, elle a Ismaël. Mais le Seigneur a précisé, non, ce ne sera pas avec lui. Ça sera avec l'enfant de Saraï. Alléluia. Qui? Ça va se passer avec qui? Ta femme. Elle a 75 ans. Je sais ce que je fais. Le troisième point que nous allons voir ensemble, nous avons gardé à l'esprit que le Seigneur, quand il nous commande, il prend déjà ses dispositions pour nous aider. Ne l'oublions pas. Que deux, il maîtrise le quand, le comment, le où. Faisons-lui confiance. Soumettons-nous. Le troisième point, même quand nous sommes infidèles, Dieu ne se départit pas de sa fidélité. Genèse 10, non, 12. On revient au premier, à ce chapitre, Genèse 12. Regardez un jour comment il met en péril quelque part la promesse. Il y a une famine dans le pays et Abraham descendit, verset 10, 12 et 10. Il y a une famine dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ça, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fit emmener dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis et des bœufs, des ânes et des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? » Vous voyez là? Il a réellement prise pour sa femme. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voici donc des stratagèmes pour Dieu lui avait garanti, je ferai de toi une grande nation. S'il avait tablé là-dessus, il se serait dit, il y a la famine, je ne meurs pas, je vais aller là où il y a la nourriture, c'est naturel et normal. Il y a des réfugiés de la famine et ça arrive. Mais il se serait dit, on ne me tuera pas, je crois en l'Éternel. Il m'a dit que je deviendrai une grande nation, il va s'en débrouiller, comment il va faire, je ne sais pas, mais j'ai confiance en Dieu. Il a douté, on risque de me tuer. Peut-être il a dit, mais si on me tue et la descendance, ça va se passer comment? Tu diras que tu es ma sœur. Et voilà, elle devient la femme de Pharaon de l'époque. Pendant quel combien de temps, la Bible ne le précise pas. Vous imaginez si le Pharaon avait dit, c'est ma femme, et c'est comme ça. La faute aurait été à qui? À Dieu ou à Abraham? Il n'a pas été fidèle là, il a faibli. Mais je regarde la réaction du Seigneur. Est-ce que le Seigneur a dit, Abraham, c'est fini, on arrête? Non. Il a été infidèle, mais le Seigneur, il a gardé sa promesse. Le Seigneur, il a maintenu l'axe de sa promesse. Non pas que le Seigneur va bénir tous nos égarements, mais vous allez voir que plus tard, il est revenu. Il est revenu et on va voir ce qu'a fait Abraham un peu plus tard. Le Seigneur n'annule pas sa promesse parce que nous devenons infidèles. La Bible nous dit que quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Si vous avez abandonné la voie du Seigneur, même dans le secret, même quand les frères ne le sauraient pas, si vous pensez que le Seigneur, du coup, a annulé tout avec toi, avec vous, je vous tutoie pour personnaliser la chose, vous n'aurez pas compris le message de l'Évangile. Le Seigneur, tant que vous respirez la vie, il s'est engagé à vous poursuivre de son amour. Il s'est engagé à vous chercher. Il s'est engagé à chercher à vous sauver jusqu'à votre dernier souffle. Maintenant, si quelqu'un joue avec ça, s'enterre de plus en plus, qui est le coupable? Est-ce que le Seigneur ou est-ce que c'est la personne? C'est la personne. À plusieurs reprises, je vois le Seigneur encourager Abraham, essayer de le tirer de ses infidélités. Lisons quelques passages. Au chapitre 13, verset 14, je vois ceci. Là, Abraham, il est déjà ressorti d'Égypte. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, il y a eu un événement, Lot a pris un autre chemin. « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Alléluia. Regardez comment Dieu fait. Il a été fidèle au lieu d'annuler la promesse, puisqu'il est revenu. Il a fait demi-tour. Il a quitté l'Égypte. Il est revenu sur le terrain où Dieu le voulait. Et là, dit le Seigneur, voilà ce qu'il lui dit. Il lui a pas dit, Abraham, j'annule. Vous avez entendu ce qu'il lui a dit? C'est pareil pour nous. Alléluia. Si vous acceptez de revenir votre égarement, le Seigneur, il reste fidèle sur sa promesse. Il ne se renie pas. Il ne peut pas se renier. Alléluia. Le Seigneur vous est favorable. Il veut vous bénir. Il veut vous aider. Il veut vous faire accéder à sa promesse. Sa promesse pour vous personnellement. Et bien entendu, le Seigneur est tellement bon, il faut quand même le lire. 21. L'enfant né, c'est pas seulement la promesse. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Chapitre 21, verset 1er. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé, voyez ça? Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, puisque juste une année auparavant, à 99 ans d'Abraham et à 89 ans de Sarah, le Seigneur avait dit, c'est bien, c'est pour l'année prochaine. Dans une année, je reviendrai et vous aurez un enfant. Donc, au temps fixé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans. Différence de 10 ans, donc sa femme, 90 ans. Comment le Seigneur est merveilleux. Une femme ménopausée. 90 ans, quand même. Comment Dieu fait quand le Seigneur s'est engagé, il réalise. Alléluia. Quand le Seigneur s'est engagé, il va vous ouvrir une porte au travers des choses impossibles. Ne soyez pas découragés. Restez dans l'attente devant le Seigneur. Soumettez-vous à lui. Comment il va faire? 90 ans, une femme, mais un bébé au monde. Ménopausée. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. C'est le Dieu du miracle. Alléluia. Il nous a promis des miracles. Il les a faits. Il les fait encore. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Que son nom soit béni. Quatrième point par lequel je vais terminer, quand même, il y a les promesses, mais il y a aussi la part d'Abraham. Il y avait une part, quoique infiniment plus petite que la part du Seigneur, il avait sa part, une part incompressible, dont il ne pouvait pas faire l'économie, incontournable, indispensable pour l'accomplissement de la promesse. La première chose, la lisons, nous l'avons déjà lu, relisons-la, chapitre 15, verset 6, la base de tout, c'est qui fait d'Abraham le père des croyants. Alléluia. Chapitre 15, verset 6, Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham crut en l'Éternel, dans d'autres versions, qui le lui compta comme justice. La base, après avoir tergiversé, après avoir douté, s'être posé beaucoup de questions, il a dit maintenant, on fait le point. Dieu a parlé, il est tout puissant et il m'aime. Alliez toujours les deux, frères et sœurs. Le tout puissant, cette main toute puissante vient avec amour. Alléluia. Les tout puissants qui nous ont gouvernés sur la terre, je ne vais pas dire que tous sont pareils, non, ça serait exagéré, mais nous n'ont pas toujours aimé. Il y en a même qui ont servi leurs propres intérêts. Le Seigneur, ce sont les puissants de la terre. Le Seigneur qui est tout-puissant, le seul tout-puissant, sa main toute-puissante, vient toujours, toujours avec amour. Alléluia. Il la déploie toujours avec amour, cette main. Ça, c'est bon à savoir. À se rappeler, ne jamais oublier, le bras tout-puissant du Seigneur vient toujours avec amour. Alléluia. Donc, voilà donc, il crut, le Seigneur, il est tout-puissant, et il m'aime, je fais confiance. Voilà la base. Mais il n'a pas fait que ça. Il a transformé cette foi en des choses concrètes. Lisons la Bible. Dès le départ, quand il sort de ce pays et s'installe dans le nouveau pays, le chapitre 12, le verset 7, il a parcouru le pays dans lequel il est arrivé. L'Éternel apparut à Abraham, 12, 7, et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et que fait Abraham? Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Il bâtit un autel. Plus loin, 13, quand il revient d'Égypte, après cette incursion malheureuse, 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel, au lieu, vous voyez, où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Il se dirige vers le lieu du culte. Il va retrouver son culte. Et Abraham, il fait quoi? Il invoqua le nom de l'Éternel. Je me l'imagine, je pense bien, un jour quand je le verrai, je lui poserai la question. Et je pense qu'il a dit, Seigneur, pardonne-moi mon incursion en Égypte. Je n'ai pas fait confiance. Maintenant, je vais de nouveau t'offrir un culte dans le pays où tu m'as implanté. 13 et 18. Plus loin, le verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Partout, il a voyagé dans des tentes. Il n'a jamais construit en dur. Dans le Nouveau Testament, on le verra pour une prochaine fois. Il voyageait, il installe. Quand il installe sa tente, je vais rester ici, faire monter mes troupeaux ici quelques temps. Il bâtit un hôtel. Abraham a offert un culte à l'Éternel. Non seulement il a cru à l'Éternel, tout-puissant, qu'il aimait, qui allait accomplir sa promesse, mais il a offert un culte qui lui soit agréable. Il n'a pas seulement offert de ses brebis. Et la Bible dit, il invoqua l'Éternel. Alléluia. Avons-nous continué à invoquer l'Éternel, même en attendant l'accomplissement de la promesse que nous attendons depuis des années? Est-ce que nous nous sommes lassés, ou est-ce que nous continuons à dire à genoux, Seigneur, je viens t'offrir un culte, je viens te bénir, je te remercie aussi pour ma prière, tu ne l'as pas oublié, je vais, Seigneur, t'obéir, dis-moi ce que tu veux, j'exécuterai ce que tu me dis. Abraham a exécuté ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur lui dit, va-t'en. Et il prend les troupeaux, il s'en va. J'obéis, Seigneur. Je ne sais pas où je vais, j'obéis. J'y vais. Le Seigneur lui dit, désormais, ton nom ne sera plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Saraï, tu vas t'appeler Sarah. Abraham, le père élevé. Sarah, la princesse. Dans cette culture-là, ce n'était pas facile d'accepter de changer de nom. C'était une culture où, à la naissance, on inventait un nom pour l'enfant. C'était son nom à lui. C'est comme chez nous, nous sommes 9 dans la fratrie. Chacun, on lui a inventé son nom à la naissance. Nous n'avons pas de nom de famille. Nous avons 9 noms différents. Quand notre grâce qui est née au Burundi, nous avons inventé un nom. Il ne s'appelle pas Sinarinzi comme moi, il s'appelle Iradukunda. Ça signifie exactement « Dieu nous aime ». Nous l'avons appelé « Dieu nous aime ». Petit bout de chou, à la fin de la 6e primaire, collège, grâce. Il faudrait qu'on aille voir le juge. Que tu t'appelles Sinarinzi comme nous? Nous sommes dans un autre pays. Ça va te causer des ennuis. Et on va expliquer pourquoi il s'appelait comme ça. Il a réfléchi. Et là, voilà le petit chou qui dit « Non, je vais garder mon nom. Je m'appelle Dieu nous aime, je vais garder mon nom. » Ça sera un problème. Non, je tiens mon nom. Eh bien, on a laissé tomber. Elle s'appelle Iradukunda. Et c'est pourtant notre fille à Sophie et à moi. Donc, c'est aussi pour vous dire que cette obéissance-là, ce n'était pas simple d'être redéfini comme ça. Mais vous avez vu, je terminais par là. C'était portée prophétique. Père élevé, princesse, comme si de rien n'était. Un jour plus loin, quand Abraham, par Jésus-Christ, deviendrait l'homme en qui nous sommes tous bénis, toute l'humanité entière, alléluia, par Christ, descendant d'Abraham, qui meurt sur la croix, qui résiste entre les morts, qui remonte à la droite du Père, qui donc a été élevé dans les lieux élevés en Jésus-Christ. Vous savez qui c'est? Béni soit le Seigneur qui nous a. Il nous a pris, c'est moi qui reformule. Il nous a pris en Jésus-Christ. Il nous a élevés avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Et les princes et les princesses, c'est qui donc? Alléluia. Les enfants du roi des rois, les princes et les princesses, moi je les vois devant moi. Alléluia. C'est vous, humblement, c'est moi aussi. Accepter et nous soumettre à ce que Dieu fait. Ils auraient réagi, non. Je reste Abraham. Je reste Saraï. Alors là, ce serait mal passé. Mes frères, mes sœurs, j'en arrête là aujourd'hui. Le Seigneur vous est favorable. Le Seigneur est de votre côté. Le Seigneur est là, de votre côté. Je ne sais pas comment vous le dire. Croyez-le. Il n'est pas contre vous. Vous pouvez dire, mais non, mais vous ne savez pas comment moi je l'ai énervé. Eh bien, vous l'avez énervé. Lui, il est dans le temps de grâce pour le moment. Tant que vous respirez, si vous ne jouez pas avec, si vous faites comme Abraham, le Seigneur me dit ce que je dois faire, je ne tergiverse pas, assez tergiversé, je fais ce que Dieu me dit, là vous allez vous étonner. Le Seigneur va vous bénir, il va vous bénir et vous bénir et vous n'en reviendrez pas. Que le Seigneur vous bénisse, serrons dans nos cœurs les promesses de l'Éternel. Alléluia. Pour une autre fois, si Dieu le permet, nous allons parler alors dans le cadre du Nouveau Testament, en Jésus-Christ, les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, puisque tellement tu nous aimes, tellement, Seigneur, Tu as fait le choix de nous aimer. Nous qui, de nature, ne sommes pas aimables, je te bénis, Seigneur, car non seulement tu nous sauves, non seulement, Seigneur, tu nous tires d'affaires, mais tu nous accompagnes de tes promesses, Seigneur, de tes bénédictions, Seigneur, alors que nous ne méritons rien, nous mériterions seulement l'enfer. Seigneur, aide-nous à nous nourrir de ta parole et dans ta parole à manger, digérer aussi tes promesses. Alléluia. À les rendre nôtres, Seigneur, en t'obéissant et en ayant foi en toi. Bénis ton peuple, Seigneur, et que ton peuple soit vraiment galvanisé, encouragé, Seigneur, par toi. Que l'Esprit de Dieu vienne loger dans nos cœurs, Seigneur, la confiance en l'Éternel, la soumission à l'Éternel, Seigneur, afin que ta volonté soit faite dans nos vies et dans ton Église. Que ton nom soit béni. Amen.